There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonsoir à tous, on se retrouve en live pour un nouveau numéro de Talk GP avec Michel Turcot qui est parmi nous pour la première fois en 2021, notre reporter sur les Grands Prix pour GP Racing et Moto Revue. Salut Michel.
Salut tout le monde.
Et puis notre invité du jour, Christophe Bourguignon, qu'on ne présente plus, qui est arrivé sur les Grands Prix d'ailleurs un petit peu en même temps que Michel. Peut-être Michel était là un ou deux ans avant, je crois, c'est ça?
Ouais, je pense que t'es arrivé en 93, hein, Christophe.
Oui, début 80, fin 92, début 93.
Un personnage du paddock qui est chef mécanicien de Cal Crutchlow et qui a aussi, je crois, d'autres rôles au sein du team LCR. Tu vas nous en dire plus. Merci d'être avec nous, Christophe.
Ça, c'est moi.
Sont pas à jour tes fiches, hein, Alexis?
Oui, alors,
Crutchlow, il est pilote des CMA maintenant, il a changé
voilà,
de pilote.
On est en 2021, c'est vrai. Donc maintenant, Christophe, tu seras chef mécanicien d'Alex Marquez qui arrive au sein du team LCR. Pour commencer, pour te présenter en quelques mots, Christophe, est-ce que tu peux justement nous décrire un petit peu ton rôle au sein du team LCR? D'abord, effectivement, pour ceux à qui ça ne parlerait pas vraiment, quel est le rôle d'un chef mécanicien? Et puis, je crois aussi que tu es... plus généralement responsable technique un petit peu du team LCR, c'est ça?
Ben oui, au départ, quand je suis arrivé chez LCR avec Randy Lepunier, moi j'étais chez Kawasaki et Randy, on est arrivé et j'étais seulement son ingénieur de piste à ce moment-là, et donc ça c'était en 2008, et puis avec les années, j'ai pris un rôle de plus en plus important dans l'équipe, donc je gère un petit peu le staff au niveau de la logistique, des mécanos et tout ça, et c'est moi qui la relation avec entre le team et Honda au niveau technique et toutes les discussions et la gestion du matériel et les commandes et tout ça, c'est moi qui gère directement avec Honda Japon. Donc j'ai, en plus du chef du rôle d'ingénieur de piste pendant les week-ends, j'ai un rôle de coordinateur technique dans l'équipe. Voilà, oui.
Et justement, toi qui es en contact direct avec les Japonais pour toutes ces commandes, et toi qui es belge, comment ils sont à travailler ces Japonais? On sait que c'est une culture totalement différente. Chez Honda, c'est assez rigide. Dis-nous un petit peu.
Moi, je pense que c'est comme dans tout, il faut une période d'adaptation. On se retrouve dans des schémas quand même relativement stricts au niveau commandes et décisions. Et eux, de leur côté, ils sont nettement moins flexibles que nous en Europe. Les décisions, c'est pas une seule personne qui sait prendre des décisions. Donc, chaque fois, ça doit repasser par plusieurs personnes, ça doit être approuvé, donc il y a souvent un peu d'inertie au niveau des décisions, mais on a compris leur système de fonctionnement avec les années, hein, donc ça va faire la 13e saison que je suis avec eux, donc on commence à les comprendre et ça se passe relativement bien. Ouais.
Bon, Christophe, avant de parler un petit peu de l'actualité, moi j'aimerais, bon, parce qu'on t'a présenté sous l'appellation de Christophe Bourguignon, mais tout le monde t'appelle Biffy, donc j'aimerais bien que tu nous racontes, alors moi je connais l'histoire, mais pour ceux qui nous écoutent là, que tu nous racontes un petit peu d'où ça vient ce nom de Biffy.
Bon, écoute, ça date, hein, donc c'était en 93, je travaillais pour Kayabal et les marques de suspension, donc j'étais un assistant là, donc j'assistais des ingénieurs japonais, et donc j'étais attaché au team Suzuki Lucky Strike, et bon, à force des choses, je me suis bien intégré dans le team, et donc on avait notre ami Kevin Schwanz qui était là, et on s'est retrouvé un soir dans un resto, et il y avait du bœuf bourguignon au menu, et il s'était traduit en anglais en dessous, Biffy bourguignon, et le lendemain matin, il m'appelait Biffy, Et puis voilà, maintenant il y a des gens dans le paddock qui ne me connaissent que par ce nom-là. Je reçois des mails de l'IRTA, ils m'appellent Bifi. Je reçois des mails de la Dorna, ils m'appellent Bifi. Donc voilà, il m'a collé une étiquette. Mais bon, c'est sympa. Là, ça fait quand même un paquet d'années maintenant que je l'ai sur le dos. Donc bon, apparemment, elle me va bien, ouais, puisque je la garde. Donc voilà, c'est un peu la petite histoire. Oui.
Ouais, on parlait du travail avec des Japonais. Donc, ouais, une petite question par rapport à la saison. Bon, là, on est début février. Normalement, on devrait être, toi et moi, en Malaisie pour les essais voilà, qui n'auront pas lieu cette année. Donc, on sait que les essais auront tous lieu au Qatar avant les deux premiers Grands Prix, puisque les deux premiers Grands Prix vont se dérouler au Qatar. Tout le monde est un peu tendu, là. Les mesures sanitaires se durcissent un peu de partout, en Europe comme ailleurs, d'ailleurs. Comment tu appréhendes un petit peu ce début d'année avec les Japonais qui risquent d'avoir encore du mal à voyager en Europe? Comment ça se ressent dans l'équipe et dans la préparation de cette saison?
Ouais, plusieurs choses. D'abord, pour nous, on n'a pas l'habitude d'être bloqué comme ça l'hiver, entre guillemets, parce que d'habitude, mi-janvier, on va déjà un peu à l'atelier à Saint-Marin. On part une semaine au Japon assembler les nouvelles motos. Et puis, comme tu dis, on attaque d'entrée de jeu les tests à Sepang qui enchaînent sur le Qatar, souvent fin février. Donc là, on a un peu bloqué et un peu sur les starting blocks, mais tout en sachant qu'il y a toujours ce danger du jour au lendemain que tout soit annulé ou reporté. Les Japonais, ils ont pris pas mal de retard aussi à ce niveau-là, parce qu'ils ont eu aussi... Des mesures relativement strictes. Je sais que toutes les personnes du bureau n'avaient pas le droit d'aller travailler chez HRC jusqu'au 7 février. Je pense que c'est la règle pour le moment. Donc, ils travaillent de la maison. Il y a seulement certains mécanos, les personnes essentielles qui peuvent aller travailler chez HRC. Donc, il y avait déjà pas mal de retard dans l'organisation. Après, c'est pas un gros problème, mais je ressentais quand même que ça allait être chaud pour organiser tout pour la Malaisie. Donc, c'est un peu tendu. Et puis, eux, de leur côté, ils ont des règles très, très strictes, hein, avec le Japon et HRC qui leur met des règles très strictes. Donc, eux, ils savent au moment où ils partent pour le Qatar, ils ne vont pas rentrer au Japon avant mi-saison ou fin de saison. En ayant eu des discussions avec eux, je pense qu'ils vont faire des tournantes. Ils vont essayer de splitter la saison avec des ingénieurs. Il y a des ingénieurs qui vont faire une demi-saison, l'autre partie une autre demi-saison, parce qu'ils n'ont pas le droit de rester dans l'espace Schengen plus d'autant de jours par an. Donc, et quand eux rentrent au Japon, ils doivent absolument rester en quarantaine de 14 jours dans un hôtel à l'aéroport. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux ou ils ne peuvent pas rentrer travailler. Apparemment, ça, c'est une règle un peu imposée par certaines sociétés. Ce n'est pas spécialement une règle imposée par le Japon lui-même, parce qu'ils pourraient faire la quarantaine chez eux, mais je suppose que chaque société a des différentes règles. Et voilà, donc je sens de leur côté... c'est pas avec grand plaisir qu'ils vont quitter le Japon, parce qu'ils savent pas quand ils vont y retourner. Hein. Et donc, là, c'est le plan entre le Qatar, les tests et le Grand Prix, ils ne vont pas rentrer. Après les deuxièmes Grand Prix, ils vont directement aller à Andorre, puisqu'ils rentrent en Europe, mais ils ressortent directement de l'Europe pour ne pas rester dans l'espace Schengen. Et puis ils vont vivre à Andorre et faire Andorre et des Grands Prix en Europe comme ça pendant toute la saison. Ouais, voilà.
Et pour toi, très peu de tests, comment tu vis tu as un nouveau pilote qui est Alex Marquez, on l'a dit. Comment on prépare un championnat avec un jeune pilote? Alors même s'il a déjà fait une saison, vous avez plein de choses à découvrir ensemble et vous avez finalement pas pu faire de tests encore. Et vous allez avoir en gros 3-4 jours de roulage et puis boum, la première course. Quoi. Donc j'imagine que c'est hyper compliqué. Quoi. Comment tu arrives à compenser cette situation?
Ouais, la compenser, c'est pas possible parce que... Je pense que mon travail avec le pilote, c'est de se comprendre. Donc, c'est d'arriver à à écouter ses commentaires et transformer ses ressentis et ses commentaires sur la piste en des réglages techniques. Donc, sans avoir travaillé avec lui, je ne peux pas m'avancer de dire que ça va bien se passer, que ça va mettre 2 jours, 1 mois ou 6 mois. Je sais par expérience que ça met du temps vraiment pour comprendre les pilotes, pour savoir si quand ils font du bruit, il faut faire un petit changement, ou quand ils font énormément de bruit, ou quand ils se plaignent énormément, il faut pas changer parce qu'il y a du stress, il y a des émotions, il y a des choses comme ça. Donc c'est un peu ça mon travail, c'est d'arriver à cerner le pilote et de savoir exactement comment réagir par rapport à ses envies, ses demandes. D'un autre côté, la moto, on commence avec l'équipe et Honda, on commence vraiment à la connaître. Hein. Ça fait un paquet d'années qu'on travaille avec. Les suspensions à Ohlins, on fait du super boulot. Les pneus Michelin aussi. Tout ce qui est châssis, géométrie et tout ça, c'est quand même du connu, du vécu. La réglementation entre 2020 et 2021 impose de garder le même moteur. Donc, on ne va pas avoir des nouveaux aspects à régler, à mettre au point. Enfin, il y en aura sûrement, hein, mais donc de ce côté-là, au niveau technique, j'ai pas trop d'appréhension. Maintenant, un nouveau pilote, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, mais c'est un super challenge et ça va être intéressant. Ouais, ouais.
Oui, justement, pour rebondir là-dessus, après pas mal d'années avec un pilote hyper expérimenté comme Cal Crutchlow, le fait de travailler avec Alex Marquez qui n'a qu'une saison dans les jambes, c'est un challenge stimulant pour toi. Tu vas pouvoir lui apporter beaucoup de ton expérience, pouvoir travailler différemment d'avec Cal.
C'est super de changer. Ça va faire du bien à tout le monde, à l'équipe. Ça va me faire du bien. C'est une nouvelle motivation et tout ça. Maintenant, c'est sûr, on a travaillé 6 ans ensemble avec Cal, donc on a des automatismes. Il y a des choses, on n'a pas vraiment besoin de se parler pour savoir dans quels soucis on a ou le niveau du problème, si on a un petit problème ou un grand problème. Maintenant, donc, ouais, c'est sûr, ça va pas être facile. Un nouveau pilote, maintenant. Je pense qu'il a montré ses capacités. Hein. Je pense qu'il est super fort. Donc, on a une super équipe. On ne va presque pas changer l'équipe technique. Donc, je pense qu'on va. Ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se passer. Il a une bonne discipline. Moi, j'aime bien la discipline dans mon boulot et tout ça. Donc, je pense qu'on va avancer. Ouais. Oui, ça va être pas mal. Ouais.
Pour rester sur Cal Crutchlow, est-ce que tu as le sentiment d'avoir pu atteindre avec lui son plein potentiel, d'avoir eu les résultats, le maximum des résultats qu'il aurait pu avoir durant toutes ces années?
Bon, on a toujours des regrets. Hein, dans toutes les courses, il n'y en a jamais qu'un qui gagne ou 3 qui font le podium tous les week-ends. Et souvent, on est très proche et avec Cal, on peut se mettre dans des positions où on pourrait monter sur le podium et tout ça. Des regrets, oui. Maintenant, je pense qu'il a un super potentiel. Hein. Le gars, quand on arrive à mettre la moto au point et qu'on a fait le bon choix des pneus et que toute l'équipe a bien travaillé et que lui est dans un bon jour, je pense qu'il peut battre les meilleurs. Hein. Ça, c'est clair. Maintenant, il nous a manqué de régularité. On a eu cette chute à Phillip Island, un week-end où je pense qu'il était de nouveau sur le podium. Il était très fort ce week-end-là. Et après, il a perdu quand même pas mal de mobilité au niveau de la cheville. Et puis cette année-ci, on n'est pas trop mal, par exemple. On se retrouve à Jerez. Il est en première ligne. On est top pour être performant, et puis il y a cette chute là au warm-up qui se casse le poignet, donc à ce moment là ça compromet tout, hein. on est en retard dans le planning toute la saison et on court pendant toute la saison, mais bon, j'ai passé 6 superbes années avec lui. Je suis sûr que quand on est sur la grille, le gars il se donne à 100% Et c'est un battant, il a une condition physique irréprochable. Non, c'est un guerrier. Moi, c'était vraiment agréable de travailler avec lui et j'ai passé de six superbes années. Ouais, ouais.
Qu'est-ce que tu penses qu'il va pouvoir apporter à Yamaha?
Je pense que c'est le gars qui va quand même directement au point sensible. Donc, je pense que d'entrée de jeu, il va. Du fait que ça fait 6 ans qu'il roule sur la Honda, donc il a une référence Honda qui n'est peut-être pas l'idéal ou dans tous les domaines, mais donc il va mettre le point sur peut-être une ou deux faiblesses de la Yamaha et il va probablement leur casser les oreilles pendant un moment sur ces petites faiblesses là. Mais je pense que c'est un super atout et le gars. C'est pas le gars qui chipote à relever un mousse de sel de 5 mm ou d'ouvrir un guidon d'un degré ou de. Donc le gars, il va à l'essentiel et il sait aller vite assez rapidement. Donc je pense que ça va être top pour eux. Ils vont. Et surtout qu'il part là, on a beaucoup parlé avec lui fin de saison et cet hiver-ci. Il est là, il y va serein et motivé, donc je pense que ça va être bien pour Yamaha. Ouais.
Vas-y. Tu portes sur la situation de Honda qui n'a pas gagné de course en 2020 suite à la blessure de Marquez, voilà, qui a beaucoup misé sur Marquez ces dernières années. Est-ce qu'ils auraient dû par exemple plus écouter un Crutchlow et faire le développement de la RCV différemment pour qu'elle convienne à plus de pilotes?
C'est toujours facile de dire après, hein. Maintenant je pense qu'Honda ils ont toujours suivi le pilote qui gagnait. Et ils ont été, que ce soit avec Doohan avant, avec quand Rossi était là, avec Stoner, avec Marc. Donc, bon, je pense que ça, c'est la théorie qui paye. Hein. Il faut suivre le pilote qui est le plus vite et il faut l'aider, il faut le mettre en confiance. Maintenant, si Honda avait su que Marc allait se blesser, ils auraient peut-être travaillé différemment les deux dernières années, mais. Parce que je pense que Marc s'est allé vite avec pas mal de motos. Hein. Donc, il est quand même un niveau au-dessus de beaucoup de pilotes. Et maintenant, faire une autre moto plus facile à rouler, bon, on a essayé, mais c'est pas facile. Hein. C'est ce que les pilotes se plaignent de ça directement. Il faut vraiment attaquer avec la moto pour arriver à exploiter le potentiel. Mais c'est pas facile. On a pas mal bossé avec Cal et Taka de notre côté aussi a pas mal bossé, essayer de trouver des solutions un peu moins radicales, un peu quelque chose un peu plus passe-partout, mais on se retrouve directement dans des schémas où on est moins performant. Donc souvent une moto trop confortable ou trop facile n'est pas spécialement la moto la plus rapide. Donc je vais dire Honda, ils ont fait le bon choix. Ils ont été champions du monde et si Marc ne s'était pas blessé, il aura probablement été encore champion du monde et sa blessure, je pense que sa blessure, il chute peut-être par un manque de concentration ou un surplus de confiance en lui. Donc ça n'a rien à voir avec la moto. Ouais.
Bon, Biff, il y a des choses. Bon, bien évidemment, tu peux pas trop en parler, mais la politique de Honda, elle est quand même difficile à lire par moment avec notre ami Alberto Puig. Mais quoi qu'il en soit, tu récupères un pilote, un jeune pilote qui est le frère de Marc Marquez, qui était dans l'équipe Factory pour sa première année en MotoGP et qui, dès la deuxième année, entre guillemets, on le rétrograde dans l'équipe satellite. Donc toi, tu te retrouves. J'imagine que psychologiquement, il y a aussi du boulot pour nouer des liens dans ces conditions, quoi.
Bien sûr. C'est dès le début qu'on a parlé de ce projet-là bien avant qu'on en parle dans la presse, hein, mais entre nous, on se demandait. Pour nous, LCR, est-ce que c'était le bon choix? Parce que bon, on en parlait avant qu'il ait commencé à rouler, qu'il ait fait une seule course. Donc, est-ce que ça allait être le bon choix? Est-ce que pour nous, LCR, un pilote comme Cal, c'est l'idéal? C'est un battant, il sait que chaque année, il est, à part cette année-ci, blessé, ou sinon, il se met sur le podium, il gagne des courses. Donc, c'est l'idéal. Donc, on parlait d'Alex Marquez qui n'a pas fait un seul Grand Prix et qui allait, comme tu dis, redescendre de catégorie, d'être pilote officiel chez Repsol et redescendre chez LCR. On a moins de staff technique, on a peut-être moins d'infrastructures, on a moins de confort pour un pilote à ce niveau-là. Maintenant, dès le début, on a eu quelques super réunions avec Alex et avec son manager, Emilio. Et bon, c'est jamais facile de savoir si c'était un choix de raison ou c'était imposé ou pas. Mais bon, toutes les discussions qu'on a eues ont été super positives et on est parti dans un schéma super positif pour le moment. Maintenant, comme tu dis, si ça se passe mal le début de saison ou quoi, ok, c'est que il va commencer à gamberger et d'autres personnes vont commencer à gamberger autour de lui. C'était mieux chez Repsol, c'était mieux avec les motos de 2020 chez Repsol, avec le team Repsol, avec, tu vois, donc c'est jamais facile à anticiper tout ça. Mais bon, moi, le projet, je suis super motivé avec le projet, l'équipe aussi, et je suis sûr techniquement qu'on a de quoi faire, on n'a pas à être ni jaloux, ni envier le staff chez Repsol, donc, moi, je suis confiant qu'on a l'équipe pour faire quelque chose avec lui. Maintenant, il faut que ça se passe bien, il faut que les choses tournent dans la bonne direction et qu'il faut que la Honda soit performante parce que ça, c'est super important. Hein. Il faut arriver à être performant, il faut que la moto d'entrée de jeu soit vite. Il va y avoir des évolutions parce qu'on dit on ne change pas le moteur, mais il va y avoir pas mal d'évolutions quand même. Hein. Ils vont affiner la moto, donc on va voir comment ça va se passer. Ouais.
On a vu à Bradel avec une moto sensiblement différente de celle qu'on a vue jusqu'à présent à Jerez récemment. Là. Donc on sent qu'il y a quand même du gros travail qui est fait en termes de châssis et d'éléments périphériques.
Oui, mais ça c'est un peu chaque année. Hein. Tu sais, il y a énormément de choses qui se testent et il y a peu de choses qui vont sur la piste sur les Grands Prix souvent. Hein. Bon, mais ça c'est leur boulot d'anticiper, d'essayer des options un peu exotiques, je vais dire, un peu des choses. Donc, le moteur est figé. Maintenant, tout ce qui est autour du moteur, tu peux imaginer boîte à air, throttle body, échappement électronique, tout refroidissement, tout ça peut être amélioré. Donc, je suis sûr qu'ils n'ont pas pu travailler sur le moteur. Ils ont travaillé sur des autres paramètres. Et au niveau châssis, bon, on est libre, donc on peut bosser au niveau châssis, bailette de suspension, bras oscillants, tête de fourche, suspension, on est relativement libre. Au niveau aéro, on est obligé d'homologuer le set de 2020 pour commencer la saison, mais t'as un jeton, tu peux introduire une fois pendant la saison, donc une évolution. Mais si tu penses que tu as une évolution avant la première course, tu peux directement l'introduire pour le Qatar si tu veux. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, des usines comme Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati, ils sont en train de bosser pour essayer de trouver des évolutions. Ouais. Donc, malheureusement, ce genre d'évolution aéro, ça ne se travaille pas sur un circuit, quoi. Donc, c'était intéressant de faire ses pannes, de valider peut-être au Qatar et essayer de produire pour la première course au Qatar. Mais là, je pense que ça va être difficile pour valider des choses pour la première course. Donc, il y a de grandes chances qu'au niveau aéro et tout ça, on soit... Bah, on verra bien. Mais beaucoup d'équipes ont commencé très, très similaires à ce qu'ils étaient fin de la saison 2020. Ouais.
On approche de tes 30 ans dans ce paddock des Grands Prix. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ce paddock au cours de ces trois décennies et aussi dans ton métier?
Bon, Michel vieillit, ouais. Non. Moi, je pense que les équipes étaient beaucoup plus petites dans le passé. Hein. On travaillait avec des staffs plus réduits. L'électronique avait beaucoup moins d'influence que maintenant. Maintenant, c'est t'as un mapping guy, t'as un data guy, t'as un ingénieur de chez Honda qui supervise, t'as des ingénieurs en amont qui font du développement, qui pendant les week-ends donnent des infos, voudraient essayer ça et tout ça, ou des gars du Japon qui vérifient, qui regardent les datas. Donc il y a beaucoup plus de suivi au niveau électronique, gestion moteur et tout ça qu'auparavant. Donc il y a plus vraiment de détails laissés au hasard, un peu entre guillemets à la chance d'avoir le bon réglage ou à du temps de Kanemoto qui chauffait la moto le matin sur les béquilles et qui changeait les gilets de l'heure et c'est lui qui avait la moto qui était 4 km/h plus vite dans la ligne droite, quoi. Donc tout est beaucoup plus contrôlé, tout est beaucoup plus surveillé, hein. On est surveillé, je vais dire chez Honda, on sait, ben, dans toutes les équipes, puis tout le monde sait avec plus ou moins ce qu'on roule. Donc c'est ça qui a changé beaucoup. Ouais. Donc moi de mon côté, chez LCR, on a encore la chance d'être un peu libre et de faire encore un peu ce qu'on veut et de gérer certaines choses comme on le veut. Ouais. Que je vois de certaines équipes officielles, ils sont quand même bridés et ils doivent quand même suivre la structure de l'usine. Voilà. Maintenant, bon, ce qui a changé, peut-être tout ce qu'il y a autour de la course a aussi beaucoup changé. Voilà. Avant, c'était plus technique. Il y avait beaucoup moins de journalistes, il y avait beaucoup moins de télévision, il y avait beaucoup moins de presse. On n'avait personne de la presse dans les équipes. Hein. C'était rare quand une équipe avait quelqu'un pour la presse. Maintenant, ils en ont un, deux, ils ont des assistants, ils ont des coordinateurs de presse, ils ont des hospitalités d'un autre monde. Mais bon, ça fait partie de l'évolution de beaucoup de choses. Ouais.
Si on te proposait de rejoindre le HRC, par exemple, tu irais?
Moi, bon, c'est une question.
J'ai déjà fait ça.
Ça a déjà été fait plusieurs fois, oui. Donc, bon, je pense que si j'avais voulu le faire, je l'aurais fait. Voilà. On me l'a proposé à plusieurs périodes dans ma carrière et pour différents pilotes. Et bon, je sais, ça se passe super bien chez Lucho. On s'entend super bien. On voit la course de la même manière. Donc, un peu. Bon, lui était pilote. J'ai travaillé pour lui un petit peu au moment où il était encore en Grand Prix 125, que je travaillais pour les suspensions Lins, donc j'étais technicien pendant une année pour lui. On s'est d'abord connu là, et puis après je suis rentré dans l'équipe, et bon, c'est le style d'équipe qui me va bien. Je gère techniquement l'équipe presque de A à Z. Bon, j'ai toujours un input de chez Honda, mais je la gère bien, je gère les staffs, c'est moi qui engage le personnel avec Lucho, bien sûr, hein, mais on s'entend super bien, c'est un super boss, hein, le gars, il est ouvert à toute discussion, c'est un super gars, donc je me sens bien là dans l'équipe et on a une équipe avec une moto pour faire des podiums, donc il y a un super challenge et c'est super motivant, ouais, non. Mais je pense. Il ne faut jamais dire non, hein, mais je suis vraiment bien chez. Ouais.
Biff, cette année, là, c'est le fer de lance, ça sera plus Cal, ça sera plutôt Nakagami. Comment tu l'an dernier, on l'a vu performer, mais on sent toujours qu'il manque un petit truc. Et c'était déjà le cas quand il était en Moto 2. Quelle marge de progression il a selon toi?
C'est une bonne question, hein, parce que le gars est super performant. Quand on se retrouve sur des circuits, surtout l'année dernière, où on roulait sur deux fois sur le même circuit, le deuxième Grand Prix, il était d'une précision et il était dans certains enchaînements sur les datas, sur ce qu'il pouvait faire, il était vraiment au-dessus du lot. Maintenant, dans la course, il y a le talent, il y a la moto, il y a un peu peut-être la gestion des émotions, je vais appeler ça comme ça, mais. Et je pense que là, il a peut-être eu trop de pression avant. Il a eu trop de pression Est-ce que c'est lui qui se la mettait lui-même? Est-ce que c'est le HRC? Je sais que du jour au lendemain, quand Marc a été blessé, on a vu des ingénieurs de chez HRC, on a vu Alberto Puig avec Takeo et tout ça qui était du côté de Taka. Donc, quelque part, du jour au lendemain, il était le quatrième pilote et il se retrouve du jour au lendemain le premier. Donc, peut-être qu'il a eu un peu trop de pression à ce moment-là. Mais sa marche de progression, je pense que le gars, il n'est plus tout jeune, il a de l'expérience, il a de la bouteille, il gère super bien ses séances. Il va garder la même équipe de A à Z, donc je pense que ça va être un client encore. Hein. Oui, ça va encore être un client. Maintenant, il faut qu'il passe l'étape supérieure, arriver à gérer ses émotions-là et à ne pas se mettre peut-être des objectifs de résultats, juste faire le mieux qu'il peut, régler la moto le mieux, et à ce moment-là, les résultats, ils arrivent tout seuls. Oui.
Alors, j'ai parlé avec plusieurs pilotes cet hiver et beaucoup m'ont dit attention à Miller. Alors, je sais que Jack, il est passé chez LCR. Je sais que tu m'en as toujours dit beaucoup de bien. C'est un pilote qui t'a impressionné de par son pilotage, capable de faire des trucs incroyables. Est-ce que tu penses que dans une équipe officielle avec la Ducati, qui semble lui convenir, puisqu'on a vu que l'an dernier, c'est lui qui a fait les meilleurs résultats quelque part, oui. qu'est-ce que tu penses qu'il peut faire cette année, Jack? Ça peut être la surprise?
Ça peut être la surprise, ouais. Moi, je pense que, bon, en plus, c'est quelqu'un que j'apprécie en tant que personne et je te l'avais, on en avait parlé ces dernières années. Il est impressionnant. Cette année-ci, il n'a pas vraiment une réussite, hein. Il a pas mal de problèmes techniques quand même. Donc, en pensant qu'il va se retrouver dans une usine, dans une équipe d'usine avec une bonne moto qu'il connaît, je pense qu'il va être performant, ça va être un des clients, si pas le client, hein, j'en suis persuadé. Maintenant, j'espère que chez Ducati, ils ne vont pas essayer de le brider à la mode Ducati. C'est le genre de pilote qu'il faut laisser faire et qu'il faut laisser aller dans ses directions, dans sa direction et ne pas essayer de le brider, il faut le laisser faire. Je pense que si on le laisse faire, il sera imbattable. Si c'est pas cette année-ci, ça sera dans quelques années. Ouais. Oui. Mais il faut mettre de l'argent sur lui, je pense. Ouais. S'il faut parier. Ouais.
On va prendre quelques questions d'internautes. Quels sont, selon toi, les points forts de la Honda par rapport aux autres machines et comment tu vois la belle progression de KTM qui a fait une très belle saison l'année dernière avec 3 victoires?
Les points forts de la Honda, ouais, si on écoute les pilotes, il n'y en a pas. Hein. Donc, mais bon, ça, c'est tout pilote de course. Il se plaint de sa moto et il trouve que les autres sont beaucoup mieux. Je pense qu'on, peut-être moins que dans le passé, mais on s'est toujours rentré très fort dans le virage sur l'angle avec la Honda. Donc, ça a changé un petit peu. On a essayé de changer les réglages pour un peu moins. Pour soulager un peu l'avant, parce qu'on abusait peut-être trop le pneu avant. Donc, on avait une poste où on savait rentrer très fort dans les virages, on savait freiner très tard et rentrer dans les virages sur l'angle. La moto était très rigide de l'avant et elle guidait très bien. Plus on mettait du frein, plus la moto rentrait dans le virage. Donc, c'était un super atout. Par contre, on abusait trop les pneus avant. Donc, on a pas mal bossé là-dessus pour légèrement, je vais dire, moins abuser le pneu avant. On a peut-être un petit peu perdu en entrée de virage, mais ça reste quand même un de ses points forts. Après, selon les circuits, comme la moto dérive pas mal et on a besoin de faire tourner la moto en dérivant de l'arrière, on s'est retrouvé sur certains circuits où il y avait beaucoup de dérives, on se retrouvait bien, ouais, parce que ça nous a aidé à faire tourner la moto et la moto était performante. La KTM, la progression de la KTM, c'est sûrement la plus grosse progression qu'il y a eu ces dernières années. On se retrouve avec une moto qui n'a pas qu'un seul pilote qui sache la faire aller. Hein. Ils ont tous montré qu'ils pouvaient aller très vite avec. Ils se retrouvent avec des usures de pneus plus que correctes. Hein. Ils sont très forts en fin de course. Ils ont leur moto a l'air d'être bien pour l'usure des pneus et tout ça. Je pense que ça va payer aussi. Ça a déjà payé, mais ils vont continuer à bosser. Ils n'ont plus grand chose à faire pour être performants. Donc, ouais, super progression, une superbe équipe. Des budgets, je ne vais pas dire illimités, mais on voit les tests qu'ils font, où ils vont tester, avec l'équipe qu'ils vont tester, le programme qu'ils ont, ils sont super bien disciplinés. Ils ont, avec Tech 3, ils ont un super team satellite avec des personnes qui ont de l'expérience dans les Grands Prix. Donc, ils ont un bon panaché de pilotes. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal.
Ils vont perdre leur concession quand même, Christophe. Donc, ça va ralentir un peu le truc. Et puis bon, la KTM, c'est Mike Leitner et Danny Pedrosa. Il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé chez Honda. Techniquement, elle est quand même, elle ressemble pas mal à Honda, cette moto.
Oui, si tu regardes le concept de la moto, que ça soit ouais, bras oscillants, biellettes de suspension et tout ça, c'est quand même... Bon, je pense qu'ils ont fait la moto en partant d'une base... connu ou de ce qu'ils ont vu. Maintenant, c'est sûr que tu arrives après un moment, tu stagnes, mais bon, ils ont un châssis tubulaire, ils ont d'autres concepts techniques que d'autres n'ont pas, et je pense maintenant, c'est à eux à bosser dans leur direction et développer la moto pour construire leur carte d'identité autour de cette moto-là. Mais c'est sûr que là où... Quand tu as 2 secondes de temps, c'est facile de venir à 1/2 seconde. Après, pour gagner les derniers dixièmes, c'est plus difficile. Et c'est là peut-être que les pilotes à un moment vont faire la différence ou qu'il va falloir continuer à développer jusqu'au moment où attirer un pilote, un tout bon pilote. Oui.
Alors, il y a des rumeurs en ce moment sur une enquête interne au sein de Honda quant à la deuxième blessure de Marquez. Je ne sais pas si tu as... une opinion là-dessus. C'est vrai que ça avait surpris un peu le paddock quand voilà, on avait appris qu'il s'était blessé en ouvrant une porte-fenêtre. Bon, voilà, il y a beaucoup d'enjeux et de pression autour de cette blessure. Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, je n'ai pas trop de commentaires parce que je ne suis pas au courant de toutes ces histoires-là. Et ce que je sais, je l'ai lu dans la presse comme tout le monde. Donc, et je lis très peu la presse. Donc... mes commentaires. Écoute, j'ai eu quelques conversations avec Alex. Jamais on a parlé de son frère. J'ai aucun commentaire à faire là-dessus où je ne souhaite pas me prononcer en tout cas. Donc, ouais.
D'accord. Alors, on nous parle des résultats de Cal qui auraient pu avoir apporté plus d'évolution et d'aide de la part du HRC au Team LCR. On rappelle tout simplement que vous avez déjà un énorme support du HRC. Hein, la machine de Cal, elle est identique, on peut le dire, à celle du HRC.
Oui, on a des super motos. On part tout... Cette année-ci, on est parti, je vais dire, le premier jour où on sort à Sepang, on a des motos identiques à... Les 4 motos sont identiques Takai avait une moto légèrement différente, mais Cal et les 2 Repsol avaient des motos identiques. Après, c'est sûr que si t'es chez Repsol, les motos sont développées vraiment à la carte. Marc avait des petites préférences mais on est en train de parler. Je sais même pas si on peut chiffrer ça en chrono, c'est plutôt un confort de pilote et je vais dire que peut-être la différence est peut-être le support technique et le staff technique au niveau l'acquisition de données et les data et les maps et tout ça où ils sont peut-être un peu plus forts où ils ont peut-être plus de personnel que nous, mais au niveau technique, au niveau de la moto, on a une super moto, ouais. On a une super moto. Après, avec Honda, c'est un peu toujours comme ça. Quand tu fais des résultats, ils t'aident. Mais bon, ça fait partie ils veulent être devant et tout développement coûte de l'argent. Donc, ils vont dépenser l'argent où ils pensent avoir des résultats. Donc, on a eu des années, on a une moto un peu moins performante et on faisait moins de résultats Et tout d'un coup, on fait un ou deux résultats et on a reçu un peu des pièces. Voilà, ouais. Donc, mais bon, c'est clair que les pièces, si elles sont limitées en quantité, elles vont chez Marc. Mais c'est tout à fait normal. Ouais. Je pense que c'est comme ça dans toutes les équipes. Ouais, ouais.
Quel souvenir avez-vous du passage de Johan Zarco dans votre équipe ? On rappelle que fin 2019, il a remplacé quelques courses Taka Nakagami qui était blessé.
Oui, super. On a super. Il est arrivé. Je pense qu'il il se posait pas mal de questions. Hein. Donc, quand il est arrivé chez nous, il est arrivé à Phillip Island, je me souviens. On s'est rencontrés un matin, on louait une maison. Il est venu, on a discuté un peu technique. Je lui ai fait un peu le tour de la moto et de ce qu'on allait avoir comme pneu pendant le week-end et comment ça allait se passer. Super, un super gars. Je suis content que ça a pu le remettre un petit peu sur les routes. Il a repris confiance en lui. Ça lui a donné des opportunités d'avoir une moto. Et là, il se retrouve dans un super schéma pour l'année prochaine. Donc, que des bons souvenirs, oui.
Rossi quitte une équipe usine pour le team Petronas privé. Ton avis ?
Oh, mon avis, c'est pas son choix. Je pense qu'il n'avait pas trop le choix, je pense. Donc maintenant, c'est un bon coup de pub pour Petronas. Bon, Rossi, il a des supporters, il y a des anti-Rossi, il y a des gens. Mais bon, en fin du compte, pour nous, il a le MotoGP. C'est un peu grâce à Rossi qu'il a, l'image du MotoGP a grandi. Il en a fait un show. Il y a une période, c'était lui qui faisait le show. Il dominait. Il a tellement de supporters dans le monde que c'est peut-être probablement une grande partie grâce à lui que le MotoGP est arrivé à cette image-là pour le moment. Donc on en profite tous, je pense, dans notre boulot, dans le sport. Donc maintenant, pour lui, techniquement, je pense que ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Ça va peut-être lui faire du bien. Ça va peut-être lui faire du bien juste de se concentrer à rouler en moto et essayer d'oublier de développer la moto et d'imposer certains choix techniques. Parce que je suppose qu'il va peut-être être un peu limité par rapport à ce qu'il était au niveau de ses choix techniques, mais souvent, c'est avoir trop d'options, c'est pas performant au niveau chrono. C'est bien des fois de dire, voilà, on est samedi matin, maintenant on arrête, et c'est un peu au pilote des fois à trouver les deux dixièmes manquants. Voilà. Et ça va peut-être lui faire du bien.
On l'a bien vu cette année avec Morbidelli, Chiamma. Hein.
Ouais, mais
comme on l'avait vu avec Zarco chez Tech 3 avant, quoi.
Et Fabio l'année dernière s'était retrouvé peut-être dans des schémas où il avait juste à se concentrer, à rouler sur la moto et c'était une moto je vais dire aboutie et s'est tiré et que des autres à ce moment-là étaient un petit peu perdus et lui en profitait. Donc des fois dans la course il faut avoir une bonne équipe. Les pilotes doivent avoir une bonne équipe derrière eux pour arriver à dire, voilà, maintenant, stop, on arrête là. On a essayé tellement d'options. On n'avance pas, on recule. Donc, on va revenir à quelque chose qu'on connaît. Et quand on aura les idées plus claires ou qu'on aura trouvé des solutions techniques, on les fera à ce moment-là. Et je pense que ça vaut pour tout le monde. Hein. Ça vaut pour tout le monde. Ça nous est arrivé chez LCR. Je pense que Rossi est passé par là. Je pense que Morbidelli cette année-ci ne se posait pas de questions et il a envoyé lourd. Il aurait pu avec un peu de réussite être aussi parmi les prétendants au titre. Ouais, ouais.
Justement, pour 2021, tu as cité Miller. Morbidelli, ça peut être un candidat au titre pour toi ?
Je pense qu'il y en a beaucoup à citer. Hein. C'est ça qui est incroyable. Hein. Il y a 10 ans d'ici, il y en a 3 qui pouvaient être champions du monde, hein, ou 4, s'il y en a un qui se blessait des 3. Et qu'ici, Mir, personne ne l'attendait, Rins est là, chez Ducati, Jack, ça va être un prétendant. Morbidelli, Fabio, Vinales, il ne faut pas le laisser tomber. Marc, s'il revient. Donc, il y a du monde. Mais c'est sûr que des gars comme Morbidelli, c'est des battants et quand tout se passe bien, ils sont durs à battre. Hein. Donc, il y en a beaucoup comme ça. Hein. Vinales en forme, s'il part devant et s'il est en confiance, est intouchable. Donc, ça va être cool, ça va être super. On va, comme cette année-ci, on va se retrouver avec plein de gars et donc tous les week-ends, il va falloir se mettre dans les 10 le samedi matin et il va falloir déjà qu'on y pense le vendredi après-midi. Donc, ça va être sympa, ouais.
Eh ben, on te remercie beaucoup, Christophe. On va conclure. On a encore des questions qu'on n'a pas pu prendre, mais on est déjà bien en retard. Merci d'avoir été avec nous pour ce numéro de Talk GP. C'était très intéressant. Et puis, on te souhaite une bonne saison avec le team LCR. Va falloir patienter jusqu'au mois de mars pour revoir des motos GP en piste.
C'était un grand plaisir pour moi et c'est un peu quand vous voulez, moi.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.